Lors de notre dernier rendez-vous, nous nous sommes arrêtés sur les deux premières des six forces de la question, avec la posture de receveur ou de demandeur, et enfin l'importance de choisir d'apprendre quand on pose une question. Une manière de prendre conscience de l'importance de poser des questions, parce que la question peut être véritablement puissante. C'est pour ça que je parle de la force de la question, des six forces de la question, et que je veux encourager à poser des questions. On continue aujourd'hui avec au moins deux autres forces de la question. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach et thérapeute, praticien en relation d'aide, et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre rendez-vous, les six forces de la question. Et j'ai choisi de m'arrêter là-dessus parce que je voudrais vous donner davantage de force et de possibilités pour créer votre bonheur. Vous vous en doutez bien, vous êtes sur Heureux au présent. Alors vraiment, bienvenue. Si vous êtes nouveau, bienvenue aussi. Profitez du livre offert « J'ai attrapé le virus du bonheur, trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir » que vous pouvez télécharger gratuitement sur le blog heureuxauprésent.com et bien sûr le faire connaître autour de vous, comme certaines personnes qui m'ont parler de leur plaisir à lire ce livre qu'elles ont trouvé pratique et éclairant. Alors, pour poursuivre aujourd'hui après la posture de receveur, de demandeur et puis le fait d'apprendre quand on pose une question, je voudrais d'abord introduire, avant d'arriver sur la troisième des six forces de la question, par l'idée que nous avons quand même appris à poser des questions avec nos parents et puis à l'école. Ce sont les deux premiers domaines dans lesquels on a appris à poser des questions. Et parfois on a bien appris, j'entends que c'est bien un jugement, et parfois on a mal appris à poser des questions. Et on a peut-être bien appris parce que dans notre environnement, quand on posait une question, on voyait que nos parents ou les enseignants manifestaient de l'intérêt et qu'ils valorisaient le principe même de poser une question. Alors que si l'on a eu l'impression d'être rabroué, humilié parce que l'on posait des questions qui paraissaient bêtes ou dérangeantes, on a peut-être développé une croyance sur la question qui réduit sa force et je voudrais la rétablir avec cette suite de podcasts sur les six forces de la question. Vous avez, dans votre cheminement, si vous avez souffert d'un rejet par rapport à vos questions, vous savez que ce n'est pas la question qui favorisait le rejet, c'est la personne qui recevait la question qui soit se trouvait impuissante en recevant votre question, soit se trouver blessé en recevant votre question, mais la liste peut se poursuivre, je ne vais pas faire toute la liste des options parce qu'elles sont par milliers. Vous comprenez que ce n'est pas le simple fait de poser la question, ce n'est pas la question en soi qui dérange. C'est la personne qui est dérangée par la question. C'est ce qu'elle ressent et elle est responsable de ce qu'elle ressent. Avec ces podcasts, je veux vous donner davantage de clés pour que vous soyez en mesure d'utiliser davantage la question, que vous l'utilisiez déjà fréquemment, et que vous puissiez l'utiliser donc mieux, de manière plus, en profitant davantage de ses forces, et si vous l'utilisez rarement, que vous puissiez l'utiliser déjà davantage, et avec plus de justesse, parce que vous en connaîtrez les forces. Allez, on y va pour la troisième force de la question. C'est que la question ouvre, alors que la réponse ferme. Alors, si on prend déjà connaissance de cette première chose-là, je trouve que c'est intéressant. Et parfois, quand on va vite en besogne, en ne se posant pas de questions ou en les posant très vite, je parlais par exemple du milieu professionnel, on se jette sur des solutions, sur des réponses, parce qu'on a peut-être peur de se poser suffisamment de questions et on pense que c'est une bonne démarche. Or, elle nous fait bien souvent passer à côté de questions qu'on n'a pas posées, que l'on n'a pas osé poser, que l'on a fui, que l'on a rejeté, pour plein de raisons, notamment psycho-émotionnelles. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant, avant d'envisager une réponse, de bien poser une question, parce qu'en fait, on va donner une mauvaise réponse, quelque part, entre guillemets, à une question, si on n'a pas vraiment profité de la question. Parfois, quand une question est posée, il est enrichissant de réfléchir à la question avant d'envisager une réponse. On aura peut-être l'occasion, d'ailleurs, dans les points suivant, dans les forces suivantes, de revenir sur cet aspect-là. C'est intéressant de comprendre justement en quoi la question ouvre, parce que quand on pose une certaine question, quand on pose certaines questions, si on estime que la question ouvre, elle va ouvrir à d'autres questions, et pas forcément à des réponses. Donc ne vous contentez pas systématiquement d'apporter des réponses à des questions. Suite à une question, vous pouvez apporter des questions. Des questions qui vont vous éclairer sur là ou les questions qui ont précédé les questions que vous poserez. Pourquoi tu as répondu comme ça au patron ? Pourrait être une question, suivie d'une question, qui pourrait ressembler à « Tu as le sentiment que ma manière de répondre était étonnante, en inadéquation avec les besoins du moment ? Qu'est-ce qui fait que tu me poses cette question ?» Vous voyez que finalement, suite à une question, on va pouvoir, parce qu'on a perçu que cette question peut être très ouverte, aller y ajouter des questions, de manière à apporter des réponses au moment où les réponses seront en mesure d'être apportées, qui seront plus précises, plus aidantes, plus adaptées à la question qui a été posée. Si je prends un autre exemple, mon enfant vient me voir et me dit « Papa, pourquoi tu as refusé que je sorte avec un tel il y a 2 jours ?» Face à une telle question, je pourrais lui répondre, clairement. Parce que ceci, parce que cela, ou parce que ton attitude ceci, ou parce que ton attitude cela, ou parce que je ne ressentais pas les choses comme ci, ou que j'aurais préféré que. Voilà. Et ça peut fermer l'échange. Je dis bien que la question ouvre alors que la réponse ferme. Mieux vaut donc, pour favoriser l'échange, bien poser d'autres questions. J'ai le sentiment que tu as mal vécu le fait que je t'ai demandé de ne pas sortir avec un tel jour. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe ? Non, tu as raison, parce que je trouve qu'il y avait une véritable injustice, quoi. Il n'y a pas de raison que tu m'aies refusé de sortir avec lui. Quelles ont pu être mes motivations d'après toi ? Vous voyez que je continue à poser des questions à mon enfant pour lui donner les moyens de continuer à cheminer et surtout de m'éclairer, de m'ouvrir l'esprit sur ce qu'il vit, sur ce qui motive sa démarche. Je suis dans la suite logique de la force numéro 2 que j'ai évoquée la semaine dernière. J'ai des choses à apprendre de toi. C'était la force numéro 2. En conséquence, quand je pose des questions sur des questions parce que je suis convaincu que les questions ouvrent alors que les réponses ferment, je favorise un enrichissement d'échanges qui me permet de mieux recevoir, de mieux apprendre, de mieux entendre ce que l'autre a à me dire. Je pourrais prendre un autre exemple, peut-être, pourquoi pas, professionnel. Je n'ai pas aimé le boulot que vous m'avez rendu, là. C'est quoi ce travail ? Vous pensez que vous n'aviez pas les compétences pour me donner quelque chose qui soit à la hauteur de mes attentes ? Je voudrais vous laisser quelques secondes pour envisager des questions que vous pourriez poser à l'issue d'une telle question. Allez, quelques secondes, et on se retrouve tout de suite. Est-ce que vous avez trouvé des idées ? Il y en a plusieurs, hein. Donc l'exemple-réponse que je vais vous donner n'est pas la réponse, c'est une voix parmi 10 000. Donc ne présagez pas que parce que votre réponse diffère de celle que je vais donner, votre réponse sera fausse, c'est pas du tout comme ça, hein. Donc voilà des options, je vais vous donner peut-être, pourquoi pas, plusieurs options pour que vous voyez plusieurs possibilités de questions suite à une question comme celle que nous venons d'aborder. Une des questions pourrait être: qu'est-ce qui t'a déçu dans le travail que je t'ai remis ? Une autre, tu penses que j'avais vraiment les compétences pour satisfaire tes attentes ? Ou bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour satisfaire tes attentes ? Ou qu'est-ce qui t'a vraiment insatisfait ? Ou qu'est-ce qui t'a vraiment satisfait ? Est-ce qu'il y a au moins des choses qui sont satisfaites dans le travail que j'ai fait ? Ça pourrait être aussi, pourquoi est-ce que tu m'as confié ce travail à moi ? Tu penses vraiment que j'avais... Bref, voilà. Donc, vous voyez, je m'arrête là pour les quelques exemples. Ne les ayant pas vraiment travaillés, je voudrais aussi que vous ayez cette capacité spontanée de poser des questions en vous disant que j'ai conscience qu'en posant des questions, j'ouvre davantage les questions qui m'ont été offertes. Vous entendez que j'ai employé le mot « offerte » comme si on vous faisait un cadeau en vous posant une question. C'est un état d'esprit que je trouve... enrichissant et aidant, même quand la question qui est posée est dérangeante, qu'on a le sentiment d'être dérangé, parce que vous savez qu'on est responsable, vous êtes responsable de vos émotions, ce qui signifie que si vous vous sentez dérangé quand on vous pose une question, ça n'a à faire qu'à vous-même, vous êtes responsable de votre dérangement, ce n'est pas la personne qui vous dérange. Par conséquent, vous aurez loisir de vous interroger pour savoir pourquoi cette question vous a-t-elle dérangé, Mais ça ne vous exonère pas de poser des questions pour mieux entendre, comprendre, reformuler, ouvrir les questions qui vous ont été posées, même quand ces dernières ont des aspects qui vous semblent à vous dérangeants. C'est mieux que de penser que c'est l'autre qui vous dérange et de vous placer en défense ou peut-être en attaque. D'accord ? Et peut-être même de se priver de la question en se disant « mais en fait, le dialogue n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien d'aller continuer à poser des questions, parce qu'en fait, vu que lui ou elle, finalement, c'est vous qui vous enfermez. Ça n'enferme jamais votre lui ou votre elle d'en face, votre vis-à-vis. Vous êtes enfermé. Il est vraiment plus aidant, plus enrichissant que vous supposiez d'emblée que le fait de poser des questions ouvre à des possibles, même si ça semble peu probable. Ça ouvre à des possibles. Grâce à la question, on va se créer des champs. Grâce à la question, on va avancer, on va produire, etc. Et d'ailleurs, ça introduit très bien la quatrième force de la question, qui est que la question invite au lien. Alors, vous avez déjà perçu que j'ai lancé quelques petits éléments dans le point précédent. La question invite au lien est une croyance. Je vous invite tout simplement à me faire confiance, ou à vous faire confiance si vous êtes déjà convaincu de cela, pour adopter cette croyance, la question invite au lien. C'est une opportunité pour créer du lien. Même si la question est dérangeante, comme je viens de l'évoquer, même si la question nous paraît mal posée, même si la question nous paraît bête, elle invite au lien. Or, inviter au lien, c'est vivre. L'inverse d'inviter au lien, c'est couper les liens. C'est commencer à mourir. À partir du moment où l'on pose une question et qu'on a cette croyance qu'elle invite au lien, on va pouvoir mieux vivre la relation successivement à la question. Et ça nous renvoie à la première force évoquée la semaine dernière, qui est la posture de receveur dans laquelle on va mettre des parasites, des barrières, des freins, pour ne pas recevoir l'entièreté de ce que l'autre va vouloir émettre suite à la question que l'on a posée. Donc, ou même parfois, pour ne pas complètement entendre la question que l'autre nous pose. Quand on a adopté la croyance que la question invite au lien, eh bien, on est en désarmement, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien cette image parce que vous savez que les grandes forces mondiales s'encouragent mutuellement à une baisse de l'armement parce que ça veut dire qu'on a une force de frappe moins importante pour exterminer moins de populations à la fois, mais on se met d'accord sur le fait que finalement on va le faire de manière partagée. Je réduis mes armes, moi, État français, pendant que l'Allemagne et les États-Unis en même temps le font et que d'autres pays, le Royaume-Uni, le font. Voilà, c'est pas, il n'y en a pas un qui réduit son armement, son arsenal militaire pendant que les autres continuent à le faire grandir. Parce qu'autrement, on estime qu'on va être, en cas de menace, trop affaibli. Eh bien, quand on est dans cette démarche de poser la question en disant que la question invite au lien, que l'on met le lien en priorité, on est dans cette démarche de désarmement en invitant l'autre à un désarmement symétrique. On va baisser ensemble notre arsenal d'attaque parce qu'on a choisi de créer du lien. Est-ce que tu as choisi de créer du lien, toi qui m'écoutes aujourd'hui ? Est-ce que tu es prêt à te dire « j'accepte que quelle que soit la question qui me vient, je l'accueille comme « waouh, il ou elle veut créer du lien ». Ouais, mais tu te rends compte, quand t'as fait ça, t'es n'importe quoi. On est bien d'accord que t'as agi n'importe comment, là. C'était pas raisonnable. J'entends cette question comme une occasion de créer du lien. Pourquoi ? Parce que si la personne ne veut pas créer de lien, elle ne me dira rien. Elle en parlera à quelqu'un d'autre. En disant, mais tu te rends compte, lui, ce qu'il a fait, là, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Quelle décision minable. Si elle vient vers moi, même si elle vient avec véhémence, avec beaucoup de colère, de la rage, c'est qu'elle veut créer du lien. Génial, magnifique, super, j'accueille, je suis reconnaissant de ce que tu viens de dire moi, créer du lien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je peux vous le dire que c'est pas systématiquement à portée de main de se dire que quand l'autre vient et nous rentre dedans, c'est parce qu'il veut créer du lien. On a ce mécanisme de défense naturel qui veut qu'on veut se protéger par égoïsme. Mais parfois, mieux vaut ne pas se protéger. Il vaut se dire que ce qui va nous protéger, c'est d'être en lien avec l'autre. D'ailleurs, bien des nations, pour reprendre la même image que j'ai employée tout à l'heure, ont compris qu'un des moyens de limiter le risque de guerre et donc de favoriser la paix est de créer du lien, même avec ses ennemis. Je vais poser des questions à mes ennemis. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Quelles sont vos attentes? Où est-ce que vous avez le sentiment de vous sentir floué? Qu'est-ce que vous aimeriez que nous fassions pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à réduire la tension, à vous sentir compris, à vous sentir partie prenante? Et tout cela favorise à réduire la tension, tension, parce qu'on crée du lien grâce à la question. Tournez-vous vers les diplomates. Et je vous renvoie vers le livre de Marshall Rosenberg, comme je l'ai fait il y a 3 semaines. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Le dialogue, le débat sont des outils magnifiques. Or, dans un débat, on pose des questions. Et je rappelle que le verbe débattre, c'est un préfixe avec un radical. Le radical, c'est le verbe battre. Le moyen de limiter le conflit, de se battre avec l'autre, donc débattre, c'est de discuter, d'échanger, de poser des questions, et de poser des questions sur des questions, pour s'assurer de bien comprendre l'autre, et surtout s'assurer de montrer à l'autre, de dire à l'autre qu'on en cherche à le comprendre. Parce que quand on pose des questions sur des questions, ça veut dire qu'on est vraiment intéressé. Quand on donne une réponse, c'est qu'on n'est pas spécialement intéressé, ou en tout cas ça veut dire qu'on est un peu moins, a priori, un peu moins intéressé. Donc la question invite au lien. Vers qui est-il pertinent, judicieux aujourd'hui, alors que vous écoutez ce podcast, que vous vous tourniez pour poser des questions? Vers qui pensez-vous qu'il serait judicieux que vous alliez créer du lien? Et bien entendu, vous allez poser des questions sur des questions. Donc peut-être serez-vous à l'initiative de la première question, et quand la personne vous répondra et ou vous posera des questions, vous savez que vous pourrez poser des questions sur les questions qu'elle vous posera pour lui montrer l'intérêt, pour créer du lien, pour nourrir la relation et donc pour produire la vie. Même avec des personnes avec lesquelles la relation est très mauvaise et les tensions sont importantes, des personnes que vous détestiez ou qui vous sont indifférentes, des personnes qui vous ont blessé, des personnes avec lesquelles vous êtes en froid, on va dire, et pour lesquelles vous êtes conscient d'avoir besoin pour vous, et peut-être même pour elle, mais je pense aussi, et peut-être avant tout pour vous, d'avoir des échanges, de recréer du lien pour recréer un équilibre dans votre propre vie. Alors je propose un exercice très simple, c'est d'identifier ces personnes, vous pouvez noter 5, 6, 7, 10 noms ou prénoms, et puis de prendre le temps de voir les raisons pour lesquelles il y a d'éventuels différends ou d'éventuelles tensions, et que vous alliez avec ces personnes dans cette démarche qui consiste à vous placer en posture de receveur ou de demandeur, de choisir d'apprendre de ce que ces personnes vous diront, d'entendre leurs questions et de poser des questions sur leurs questions, de limiter le nombre de réponses que vous donnerez, et puis de vous mettre dans un état d'esprit en adoptant la croyance que la question invite au lien. Alors c'est parti. Allez-y. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez que vous pouvez aller sur le blog Heureux au présent. Go, je passe à l'action. Vous pourrez bénéficier des 30 minutes offertes dans lesquelles on peut déverrouiller déjà quelques blocages qui vous limitent dans votre capacité à vous rapprocher de certaines personnes pour faire l'exercice que je vous ai proposé. Et puis, je compte sur vous pour mettre vos commentaires, vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux. Google Podcast, Apple Podcast sont mes privilégiés avec Spotify. Et puis, vous retrouvez la semaine prochaine pour aborder les 2 dernières forces des 6 forces de la question. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.